France Culture. Grand reportage, Aurélie Kiefer.
Envoyer un colis par drone, c'est quelque chose de nouveau. Pour ça, on s'appuie sur un mélange de technologie, d'intelligence artificielle, la reconnaissance biologique et la reconnaissance faciale, qui est très courante en Chine.
Nos projets s'inscrivent dans le programme Made in China 2025 et 2030 du gouvernement chinois. Nous sommes en train de vivre une grande transition, celle de l'usine traditionnelle vers l'usine intelligente.
Sur la plupart de ces nouvelles technologies, un ingénieur à Shenzhen est bien payé. On n'est plus sur un pays cheap.
Donald Trump et Xi Jinping se rencontreront-ils dans 15 jours à Osaka en marge du G20 pour tenter de solder leurs différends ? Rien n'est moins sûr. Les négociations commerciales entre les deux premières puissances économiques mondiales sont au point mort depuis le mois dernier. Les sanctions américaines et chinoises restent en vigueur de chaque côté. Et le géant chinois des télécommunications, Huawei, a été ajouté sur la liste noire des entreprises ayant l'interdiction d'acquérir des technologies auprès de groupes américains. Derrière la guerre commerciale se joue une guerre technologique. Les États-Unis sont effrayés par la montée en puissance de la Chine dans les nouvelles technologies. Il y a 4 ans, le gouvernement chinois a en effet lancé le plan Made in China 2025. À cette échéance, Pékin vise l'autonomie sur 70% des composants et matériaux clés. La Chine s'est aussi fixée comme objectif de devenir numéro 1 mondial dans l'intelligence artificielle d'ici 2030 et elle compte bien devenir la première puissance mondiale à l'horizon 2050. Les nouvelles technologies développées en Chine ont-elles vraiment de quoi faire trembler l'Amérique ? Jusqu'où peuvent aller les ambitions technologiques de Pékin ? Chine, l'offensive high-tech, c'est un reportage signé Dominique André. Dans Grand Reportage, le magazine de la rédaction, nous recevons Claude Meyer. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur à Sciences Po, où vous enseignez l'économie et les relations internationales. Vous êtes également conseiller au Centre Asie de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Et vous avez publié l'an dernier « L'Occident face à la reconnaissance de la Chine, défis économiques, géopolitiques et culturels » aux éditions Odile Jacob. Nous allons commencer par écouter ensemble le reportage de notre correspondante en Chine, Dominique André. Bonjour Dominique.
Bonjour Aurélie.
En ce moment, vous êtes à Hong Kong pour suivre l'actualité, mais c'est à Shenzhen, dans le sud de la Chine, que nous emmène votre reportage. Pour France Culture, vous avez effectué une plongée dans la Silicon Valley chinoise.
Ce qui m'a beaucoup frappé, c'est la jeunesse et le dynamisme de Shenzhen. C'est une ville qui est née il y a 40 ans, qui a été la ville test de la réforme d'ouverture économique lancée par Deng Xiaoping. Et aujourd'hui, Shenzhen vit une deuxième révolution puisqu'elle est devenue, avec la volonté du gouvernement central, la cité du futur. C'est là que se bâtit toute la puissance high-tech de la Chine. Toutes les grandes entreprises chinoises innovantes y sont installées, comme Huawei ou ZTE. Shenzhen était au début un tout petit village de pêcheurs qui a poussé au bord de la rivière des Perles dans un cadre assez grandiose. On aperçoit Hong Kong de l'autre côté de la rivière. Il y a des forêts de buildings au design soigné. Shenzhen, c'est comme la réalité augmentée que j'ai découverte là-bas. Je ne savais même pas ce que c'était. Il faut s'y rendre physiquement pour s'informer, s'enrichir et vraiment, on y apprend beaucoup sur le high-tech, cette révolution qui est en cours en Chine, mais aussi partout dans le monde.
Merci Dominique. On part donc avec vous à Shenzhen à la découverte des dernières innovations chinoises.
Je suis né en Chine, mais dans une famille coréenne, et j'ai la nationalité américaine. Si vous avez besoin de faire n'importe quel produit électronique, que ce soit pour votre passion personnelle ou pour votre projet professionnel en recherche et développement, si vous allez n'importe où ailleurs dans le monde, ça vous coûtera plus cher et ça vous prendra plus de temps pour faire la même chose. On est tellement performants ici. Je connais des gens en Californie, dans la Silicon Valley, qui m'appellent pour me dire « Hey Eric, est-ce que tu peux nous aider à fabriquer ce produit ?» Et je leur réponds « D'accord, envoyez. » Puis je vais acheter les composants et une fois que c'est fait, je leur expédie. C'est moins cher et plus rapide. Ça me prend une ou deux semaines pour le fabriquer et pour qu'il soit prêt pour les tests. Alors qu'aux États-Unis, ça prendrait 2 ou 3 mois.
Ils s'appellent Eric, Loïc, Daniel, Bianchu. Ils ont entre 30 et 35 ans, regardent l'avenir à Shenzhen où ils inventent et développent leurs produits high-tech. Ils se sont implantés dans la ville du futur, dans le sud de la Chine, aux côtés de grands groupes étrangers et chinois qui testent eux aussi les produits de demain. Au bord de la rivière des Perles qui sépare Shenzhen de Hong Kong, l'attraction, c'est le bus autonome expérimental. Pour monter à bord ce jour-là, il faut s'y prendre à l'avance. Une délégation de Japonais attend aussi. L'expérience a commencé en 2017 avec une première mondiale pour le bus autonome qui est testé dans les conditions réelles de la circulation au milieu des voitures et des vélos. Le groupe Shenzhen Bus s'est associé à Ralion Technology, une société spécialisée dans l'industrie chinoise de la conduite autonome. Son fondateur, le docteur Jimmy Run Jiangping, nous reçoit sur le parking.
C'est la rivière de Shenzhen. On est le long de la frontière, dans cette direction. Là-bas, en face, c'est Hong Kong et les nouveaux territoires. Nous sommes dans la zone franche de Fujian. Vous pouvez monter dans le bus et voir les différents systèmes qui sont à bord. Nous, on fournit le matériel technique à la compagnie des bus de Shenzhen, Shenzhen Bus. C'est l'opérateur local de transport public. C'est la plus grosse compagnie locale. C'est l'équivalent de ce que vous avez à Paris. C'est comme la RATP. Ouais. Je vous en prie, montez à bord du bus pour voir nos équipements techniques. Là, c'est la vidéo pour surveiller les affaires personnelles des passagers, quels sont leurs trajets. Nous enregistrons le nombre de passagers qui montent et descendent à chaque station. Là, ce sont des écrans qui montrent les différentes vidéos du jour et toutes les bases de données qui permettent de contrôler les mouvements du bus.
Est-ce qu'il y a beaucoup d'intelligence artificielle dans ce bus ?
Oui, on utilise toutes sortes d'équipements en intelligence artificielle qui nous permettent de regrouper toutes les mégadonnées qui vont être analysées, basées sur tout ce qui a été enregistré, y compris les images des vidéos, et aussi toutes sortes de situations. Par exemple, quels sont les comportements des conducteurs humains, des autres véhicules, dans la circulation sur la voie publique. C'est le plus grand défi pour nous de savoir comment on va s'adapter à la conduite humaine. Notre équipement est entièrement basé sur le code de la route, les règles de conduite. La machine obéit aux règles, mais les conducteurs humains, pas toujours. Ils ne prévoient pas toujours ce qu'ils vont faire. Comment devons-nous réagir face à cela? Comment la machine peut gérer? Comment se comporter en situation réelle dans la circulation automobile? C'est un grand défi.
C'est parti, nous sommes à bord, le bus autonome démarre sous la surveillance du safety driver, un chauffeur humain qui veille, assis à la place du conducteur. Il est prêt à sauter sur le volant à tout moment en cas de problème de sécurité.
Mon travail de chauffeur du bus autonome consiste essentiellement à intervenir dans toutes les situations d'urgence qui peuvent se présenter. Ça veut dire que si, par exemple, il y a des gens qui arrivent soudainement pour monter dans le bus, ou s'il y a des véhicules qui ne respectent pas le code de la route, il faut que je puisse réagir en cas de problème. Je suis là pour surveiller aussi le comportement des vélos et des piétons quand ils traversent la route. Tous les chauffeurs ont reçu, comme moi, une formation qui a duré un mois avant d'être autorisés à prendre ce poste. C'est nécessaire parce qu'il faut bien apprendre à connaître le véhicule, son fonctionnement, ses points forts et puis ses points faibles. Durant cette formation, nous apprenons à réagir, à acquérir les bons réflexes et à devoir prendre le volant si la situation le nécessite pour des raisons de sécurité.
Pour le moment, l'État n'a pas encore promulgué de loi ou de réglementation adaptée à la circulation des véhicules autonomes. Nous sommes prêts pour pouvoir transporter des passagers. Mais tant qu'il n'y aura pas cette réglementation, on ne peut pas le faire. Mais le bus est prêt, lui, à fonctionner. Cela fait un an déjà que nous faisons tous les tests nécessaires. Nous avons confiance.
Ce bus autonome respecte à 100% les règles de la circulation, que ce soit la limitation de la vitesse, les lignes continues, les doubles lignes jaunes continues. Vous savez, le bus autonome ne se comportera jamais comme un conducteur humain qui, lui, conduit comme il en a envie. Le bus autonome respecte à la lettre toute la réglementation sur la route. Il ne se permettra jamais de griller un feu rouge. Avec toute mon expérience, je sais que même l'humain ne peut pas bien gérer l'imprévu. Ce n'est pas encore le cas de la machine autonome. Ce type de situation doit être traité en dessous du dixième de seconde.
En Chine, il y a un taux important d'ingénieurs en logiciel. Rivé à son ordinateur, assis dans le bus autonome, l'ingénieur Liu Yikun, diplômé de l'université de Shenzhen, recueille toutes les données qui sont captées par les radars installés à l'extérieur du bus.
Les véhicules autonomes dépendent de leurs radars qui sont installés à l'extérieur pour saisir toutes les données sur les piétons, les voitures, enfin tout ce qui concerne la circulation. Toutes les informations sont analysées par l'ordinateur qui apprécie la situation. Le bus va pouvoir ensuite suivre les instructions comme tourner, freiner ou même doubler un autre véhicule. Ça fait un an que je suis là et que je fais des tests avec ce bus sur la route. Je dois relever et enregistrer tout ce qui est anormal. Puis je fais remonter ces informations au centre de recherche pour que les modifications soient faites. Je suis chargé aussi de l'entretien des logiciels et également du nettoyage quotidien du bus.
Qu'est-ce qu'il y a comme nouvelle technologie à bord de ce bus autonome ?
Tout ce qu'il faut. Je vous donne un exemple. Si le bus s'écarte de sa route, ou s'il n'a pas visualisé un obstacle, ou s'il n'a pas freiné, j'enregistre tous ces éléments en temps réel sur l'ordinateur. Je fais aussi des photos. Ce genre de travail, on le fait chaque jour, ce qui nous permet d'apprendre et de progresser.
Shenzhen abrite le siège de Huawei, le géant chinois des télécoms qui fait peur aux États-Unis. En pleine guerre technologique, le gouvernement chinois avance le calendrier du déploiement commercial en Chine de la 5G, le très haut débit mobile qui permettra de transmettre de grandes quantités de données. Les premières licences viennent d'être attribuées à 4 opérateurs chinois majeurs de télécommunications, dont China Telecom et China Mobile. China Mobile, le plus grand opérateur mondial en termes d'abonnés, annonce qu'il couvrira cette année 40 villes en 5G en Chine. Huawei, qui est fragilisé par un embargo américain sur les puces électroniques, a lancé à son tour une nouvelle contre-attaque face à l'administration de Washington. C'est Song Yuping, le directeur juridique de Huawei, qui est monté au créneau récemment.
Huawei annonce avoir lancé une action en justice contre le gouvernement américain pour contester le caractère anticonstitutionnel de la loi sur la défense nationale NDAA. Les restrictions qui ciblent Huawei sont anticonstitutionnelles. Le Congrès américain a maintes fois échoué à fournir les preuves qui justifient ces interdictions contre les produits fabriqués par Huawei. Huawei opère dans plus de 170 pays dans le monde. Huawei a toujours assumé ses responsabilités sérieusement, pacifiquement, pour fournir des équipements en toute sécurité selon les standards internationaux. Huawei n'a pas et n'implantera jamais des black doors, des portes dérobées.
Formé dans la Silicon Valley californienne, Eric Ran, un jeune Américain né en Chine dans une famille coréenne qui a immigré aux États-Unis, est revenu sur sa terre natale pour développer son programme 5G. Eric n'est pas impressionné par la bataille mondiale qui est en train de se jouer.
Nous travaillons dans le domaine de la 5G et le travail de notre compagnie consiste à fournir des solutions complètes pour le trafic international des big data, les bases de données. Par exemple, si vous allez d'un pays A à un pays B, habituellement, les gens ou vous-même devez acheter une puce téléphonique locale dès l'arrivée à l'aéroport pour économiser de l'argent. Mais grâce à notre technologie, plus besoin d'acheter une carte SIM locale, vous n'aurez plus à payer des frais supplémentaires de roaming, c'est-à-dire d'itinérance, qui sont coûteux. Nous vendons des hotspots Wi-Fi, des points Wi-Fi gratuits qui procurent une connexion sans fil à chacun de vos appareils. C'est une couverture globale, ce n'est pas du roaming. Nous utilisons notre propre technologie qui a été déposée à partir de la 4G et bientôt de la 5G qui arrive. Nous projetons d'utiliser la 5G début juillet ou début août. Nous fournirons nos premiers appels 5G en Chine, essentiellement à Hong Kong, qui est notre plaque tournante sur le plan de la distribution commerciale. Mais nous aurons aussi une distribution mondiale en utilisant la 5G chinoise, la 5G coréenne et la 5G américaine et quelques futurs standards de la 5G européenne. Et aussi les fréquences qui couvraient essentiellement le réseau de la 4G.
L'incubateur de start-up baptisé WeYoung, où Eric a jeté l'ancre, est plein à 96%, explique la direction. Pour 240 euros par mois, un jeune entrepreneur a droit à une chaise, un bureau, de l'eau, un comptable et le ménage. Yang Raojun est le fondateur de cette pépinière de jeunes entreprises.
En ce moment, ce que nous faisons surtout, c'est aider les entreprises chinoises qui ont bien avancé dans leurs projets à l'international. On fait pareil pour les entreprises étrangères qui ont de bons projets en Chine. On a monté une opération journées ouvertes avec BMW. Ils sont venus directement d'Allemagne avec leurs propres ressources. Ils espèrent trouver ici des idées dans l'automatisation, la programmation et l'électronique. Les équipes de création qui sont installées ici pourront un jour rentrer dans la liste des fournisseurs de BMW. Avant, pour une petite entreprise, c'était presque impossible de travailler avec un grand groupe comme BMW, ou alors ça prenait beaucoup de temps. Aujourd'hui, il existe de nouvelles possibilités pour réussir qui sont beaucoup plus rapides, beaucoup plus efficaces.
Le gouvernement chinois parie sur son plan industriel baptisé Made in China 2025 pour faire de la Chine une superpuissance économique et rattraper son retard dans des secteurs comme l'aéronautique, la voiture propre ou la robotique, un secteur stratégique dans un pays vieillissant. Pékin soutient le programme de robotisation. Bian Xu, jeune cofondateur de la société Yuaibo, fabricant de robots industriels, bénéficie de ce programme d'aide.
Dans notre entreprise, on est tous en troisième année de doctorat à l'université Jiatong à Xi'an. On n'a pas encore notre diplôme. Sur le plan technique, tous les robots qui sont ici, c'est le résultat de nos propres inventions, que ce soit pour le design, la structure, les pièces électroniques et le logiciel. Mais on utilise aussi des capteurs des marques étrangères, comme ceux de la société allemande SICK et les caméras de l'américain Intel.
Donc vous intéressez
qu'aux
robots industriels pour le moment ?
Au début, on faisait des robots de service et puis on a changé totalement de cap pour passer à la fabrication de robots industriels. On fait des robots pour toutes sortes de tâches comme transporter des objets dans les usines et aussi des robots chargés des opérations de contrôle. Par exemple, dans une centrale électrique, il faut relever des compteurs. Les robots peuvent assister les ouvriers pour ce type de travail.
C'est un secteur vraiment d'avenir, d'avoir des robots qui remplacent les hommes.
Nos projets s'inscrivent dans le programme Made in China 2025 et 2030 du gouvernement chinois. Nos robots sont destinés à évoluer dans les usines intelligentes. Nous sommes en train de vivre une grande transition, celle de l'usine traditionnelle vers l'usine intelligente. Ce sera la grande transformation du paysage industriel des années qui viennent. Le plan Made in China 2025, c'est celui de la transformation totale des usines traditionnelles en usines intelligentes. Notre professeur est aussi membre de l'équipe chargée du programme Made in China 2025. Le gouvernement nous soutient financièrement dans notre recherche et développement.
La Chine prévoit d'investir aussi 150 milliards de dollars d'ici 2030 pour devenir le leader mondial de l'intelligence artificielle. La Chine se prépare à la prochaine révolution des technologies du numérique avec ses investissements énormes et aussi un plan de formation dans tout le pays, observent Eri et Loïc, deux jeunes Français qui ont fondé leur société spécialisée dans la réalité augmentée.
On a beaucoup de candidats quand on cherche des postes en machine learning, en intelligence artificielle. On a beaucoup de candidats qui viennent d'autres branches, qui souhaitent s'orienter ou qui ont déjà fait des formations pour s'orienter sans expérience professionnelle. Donc on n'a pas forcément que les jeunes diplômés, on a aussi des gens qui ont de l'expérience, qui cherchent à changer de voie, qui trouvent du travail facilement sans problème, puisque la demande est très très forte dans tout ce qui est intelligence artificielle et blockchain. C'est une grosse spécificité de la Chine, ils se sont orientés que sur ça. Principalement, c'est leur roadmap, sur leur plan, c'est d'être les leaders dans ce domaine. Déjà, les formations des universités s'orientent dessus. Et il y a énormément aussi d'offres de formation personnelle, cours du soir, pour que les gens qui sont en genre d'activité puissent s'ajuster. On a énormément de développeurs qui vont changer leur spécialité directement pour tout ce qui est intelligence artificielle ou blockchain. Ce qui peut aussi créer des déficits dans des branches un peu plus standards, on va dire, comme le développement web, comme le développement d'applications, parce que justement tous ces développeurs veulent ont un avenir garanti dans l'intelligence artificielle comparé à ces autres branches.
Et en général, pour un développeur, la durée moyenne de recherche d'emploi, c'est un jour. Donc ils partent le matin, ils disent bon, je vais faire quelques entretiens, ils reviennent le soir en disant c'est bon, j'ai mon boulot. Les moins bons, c'est peut-être 3 jours. C'est dingue. Sur la plupart de ces nouvelles technologies, un ingénieur à Shenzhen est bien payé. On ne parle pas d'un travail qu'on accepte à mange-pain. C'est vraiment des bons boulots. Un junior peut être sur toutes les technologies qui sont liées à l'intelligence artificielle à 15 000 RMB, donc presque 2000 euros net, avec peut-être un stage comme expérience. Et les gens qui sont capables de justifier une expérience passée, on double, on triple, voire plus. On se rapproche des salaires hongkongais, par exemple. On n'est plus sur un pays cheap. Les compétences se payent.
Les deux jeunes Français ont emménagé avec leur équipe, moyenne d'âge 25 ans, dans un incubateur chinois. En gros, sur le mur à l'entrée, on peut lire « Touch Dream », en français « Atteignez vos rêves », montant du loyer 100 euros par mois. On est tout près de Shenzhen Université, la principale université de Shenzhen, et de Hightech Park, l'endroit originel où toutes les grandes sociétés technologiques se sont implantées, comme l'autre géant chinois des télécoms, ZTE, Motorola, TCL, une nouvelle zone qui s'étend sur 10 km avec que des entreprises technologiques est en train de pousser. La zone est une concentration de talents. La start-up française Koulobo est spécialisée dans la réalité augmentée. Il va falloir s'y habituer car la RA, la réalité augmentée, va bientôt rentrer dans notre vie, promet Loïc.
La réalité augmentée, elle se fait majoritairement sur téléphone aujourd'hui puisqu'elle fait appel à un capteur clé qui est la caméra. L'ancêtre, c'est les Google Glass, donc il y a déjà plus de 10-15 ans. Depuis quelques années, c'est HoloLens de Microsoft, Magic Leap, qui est une start-up américaine, qui, elle, propose de la réalité augmentée, mais sur vos lunettes. Donc c'est des lunettes, c'est pas un masque, vous avez la capacité à voir au travers, mais en voyant ça, vous avez en plus de l'augmentation. Donc nous, on pense que ces lunettes sont excellentes, sont géniales, mais sont pas faites pour le grand public. Elles sont très chères, on parle de minimum 3000 US$. Et ce que tout le monde a en main aujourd'hui, c'est un téléphone portable. Et donc ce que la réalité augmentée permet de faire, c'est d'une part comprendre le monde physique. L'un des meilleurs exemples, c'est Google Maps, qui a sorti une nouvelle fonctionnalité. Vous sortez d'une bouche de métro, vous pointez votre téléphone, il reconnaît les bâtiments et sait vous localiser précisément. Le GPS n'est pas précis, dans un environnement urbain, ne fonctionne pas. Par contre, la caméra, elle peut avoir un degré de précision de quelques centimètres. Donc, quand vous êtes dans un supermarché, quand vous êtes dans un shopping mall, quand vous avez besoin de trouver quelque chose, vous pouvez juste entrer à votre recherche et ensuite vous allez avoir en 3D le chemin le plus court en général pour vous amener à destination. Tout ça, c'est de l'analyse d'images, beaucoup d'algorithmes qui travaillent ensuite sur ça. Mais admettons, voilà, vous cherchez des robes. vous sélectionnez, je veux des robes pour un mariage. Donc, robes très spécifiques, pas forcément simples à trouver, je ne sais pas quel magasin les ont. Lui calculera l'itinéraire. Alors lui, c'est un assistant virtuel en 3D qui a comme fonction de vous amener à destination. Lui sait s'orienter dans le monde physique, parce qu'il utilise la caméra de votre téléphone pour comprendre ce qui se passe, où vous êtes, à quelle vitesse vous vous déplacez. Et en fonction de ça, il adapte sa position et il vous amène à destination. Puisqu'il est un peu intelligent, il va également vous suggérer, en fonction de votre sélection initiale, si c'est des robes de mariée, peut-être qu'il va vous suggérer des promotions sur les chapeaux. Ça peut être intéressant d'avoir un chapeau sur le mariage. Et il va vous montrer voilà, quel magasin on s'est en stock, avec quelle promotion. Ça, c'est vraiment une démo qu'on a fait en une semaine pour un client spécifique. Donc, on n'a pas encore lancé ça, mais c'est pour vous faire comprendre les applications de la technologie. Là, c'est dans un usage très commercial. C'est des shopping malls, ils ont un intérêt commercial à faire ça. Mais on a un objectif beaucoup plus large d'ancrer toutes ces nouvelles technologies dans le monde physique et de donner envie aux gens d'explorer. Pensez à un musée. Un musée, amener un peu plus de connaissances par rapport aux pièces d'œuvre, il y a un véritable intérêt. Et ensuite, donc ça c'est toute la partie physique, mais on a également toute la partie produit, où lorsque vous scannez, donc vous êtes en magasin, il reconnaît différents produits. Admettons, vous avez une intolérance alimentaire, vous ne supportez pas de produits laitiers. Tous les produits contenant du lait vont avoir une icône en vous disant « Attention, c'est pas la bonne sélection. » Et peut-être dernier point, nous on parle de réalité augmentée, mais imaginez-vous tous les drones, les voitures, les caméras de sécurité. Enfin, la réalité augmentée n'est pas la seule à créer cette copie du monde. On a d'autres industries qui y travaillent. Donc les voitures autonomes, pour être capables de rouler, elles ont ces mêmes technologies, les caméras, les drones. C'est toute une industrie qui va dans la même direction. Et donc nous, on en est l'un des usages, ou l'une des applications.
On va justement voir à quoi servent les drones.
Ok, super.
Grâce à l'intelligence artificielle, des drones vont-ils remplacer bientôt les hommes pour effectuer des livraisons? Basée à Canton, Erang, société chinoise de drones commerciaux, vient de signer un contrat avec le numéro 1 mondial du transport et de la logistique DHL pour le transport de colis par drone. Son fondateur, Hu Huazhe, a présenté la première ligne commerciale de transport par drone le mois dernier.
Cette grosse boîte jaune qui est installée dehors est constituée de deux parties. L'une est réservée aux drones, et puis l'autre, c'est un espace de stockage pour les courriers et les colis. Quand vous déposez votre courrier ou votre colis dans la boîte, celui-ci est amené jusqu'au drone. Tout est automatisé. Les consignes vocales sont données aux clients. Puis le drone décolle. Quand il est arrivé à destination, le drone dépose le courrier ou le colis dans une boîte équivalente à celle du point de départ. Le destinataire peut venir le récupérer. Il lui suffit de le prendre en ouvrant la boîte. Là encore, tout est automatisé. Envoyer un colis par drone, c'est quelque chose de nouveau. Pour ça, on s'appuie sur un mélange de technologies d'intelligence artificielle, la reconnaissance biologique, la reconnaissance de l'identité et la reconnaissance faciale qui est très courante en Chine. C'est un système très sécurisé pour la livraison des courriers. Mais ce n'est pas tout. Je peux vous dire aussi que cette année, les drones humains seront autorisés en Chine. Nous sommes la première et la seule entreprise qui a eu l'autorisation de faire des essais sur des véhicules volants autonomes, c'est-à-dire des drones qui transportent des humains. On a déjà commencé les essais sur certains sites touristiques et on espère élargir l'utilisation des drones humains au public dans le deuxième semestre de cette année.
Remplacer les humains par des drones pour des tâches compliquées, c'est aussi l'objectif du français Parrot, qui mise sur les usages professionnels des drones. Numéro 1 européen, Parrot a son centre de recherche et de développement en France, mais teste et développe ses prototypes à Shenzhen pour des raisons de rapidité et de coût. À Shenzhen, le processus de validation est accéléré, confie Elise Chen, CIO pour l'Asie de Parrot.
On connaît bien la partie consumer, ce qu'on appelle les produits consumer qui sont vendus à la Fnac ou chez Boulanger, on les voit pour faire les photos. Les drones de loisirs sont vraiment bien connus, mais également il y a une partie bien moins connue qui sont les drones professionnels. Et là, il y a une multitude d'applications dans l'agriculture, dans les mappings, en français ça veut dire la cartographie, dans la surveillance, avec les pompiers pour pouvoir faire avec des caméras thermiques, dans beaucoup de domaine, on en vient au drone pour pouvoir faire ce que l'homme ne peut pas faire, aller recueillir les données. Là où on nécessite un hélicoptère, là on nécessite de faire des voyages, là on ne peut pas atteindre les produits. Donc on envoie les drones et les applications sont vraiment multiples. Aujourd'hui, nos drones peuvent voler 30 minutes et c'est déjà une bonne chose de pouvoir voler 30 minutes avec un drone qui fait à peu près 300-350 grammes. Il ne transporte rien, mais par la suite, si on fait des drones plus gros, il faudra des batteries plus grosses et peut-être ça va limiter les poids de transport. Ça, c'est une des premières choses. La deuxième chose, il faut que le drone puisse naviguer de manière autonome. Les drones de transport ne pourront pas être pilotés par une personne de l'extérieur. Aujourd'hui, les drones sont pilotés depuis l'extérieur par une personne pour prendre des photos. Mais si on en fait un service professionnel, il faudra que ça soit navigable de manière autonome. Et donc, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des évitements d'obstacles. C'est en cours de développement, mais ce n'est pas encore complètement défini. Aujourd'hui, on en est à la technologie où le drone voit un mur, ils disent voir un arbre, ils disent c'est que c'est un mur, il va s'arrêter avant, il ne va pas savoir reconnaître que c'est un arbre et le contourner. Donc plus tard, bien sûr, on est tous les manufacturiers de drones sont en train de travailler dessus. Plus tard, il saura savoir reconnaître que c'est un arbre, notamment grâce à l'intelligence artificielle, que c'est un arbre, que c'est une personne, qu'on va pouvoir le contourner. Mais ça va nécessiter un petit peu plus de temps pour pouvoir faire un bon évitement d'obstacles.
Difficile de faire le tour complet du high-tech qui évolue sans cesse dans tellement de secteurs différents. La Chine a par exemple créé son propre système de géolocalisation pour garder son indépendance face au GPS américain. Une trentaine de satellites ont déjà été lancés. Beidou sera opérationnel l'an prochain et la Chine entend bien l'utiliser sur les routes de la soie. La Chine a interdit aussi les GAFA, Google, Apple, Facebook et Amazon pour les remplacer par Beidou, Alibaba, Tencent et Xiaomi. La Chine veut imposer peu à peu ses cartes de paiement, Union Pay face à Visa, Mastercard, American Express. Et les Chinois sont devenus le pays pilote dans le paiement par smartphone via WeChat ou Alipay. Dans la bataille technologique, la Chine devrait dépasser les États-Unis l'an prochain pour le nombre de brevets déposés à l'international, selon les derniers chiffres de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Mais le professeur Ding Yuan de CEIBS, prestigieuse école de commerce de Shanghai, pense que la Chine n'a pas encore pour gagner la bataille technologique.
Sur ce sujet-là, il y a quand même maintenant un consensus, non seulement parmi les académiques, les praticiens, mais aussi parmi la couche politique, c'est que d'un côté, la Chine s'assoit sur un grand marché. Et grand marché, maintenant, on parle beaucoup de données. Donc tout ça favorise des tests et des améliorations des modèles et des technologies qui sont déjà établies. Et il y a aussi un effet formidable d'économie d'échelle. Donc ça, c'est le premier point fort qu'on trouve rarement dans le monde, c'est-à-dire on a un marché ou un nombre d'utilisateurs homogène. Ça, c'est le plus grand du monde. Deuxième point qui est très important, c'est qu'en Chine, on trouve énormément des ingénieurs de Mars, c'est-à-dire qui peut décomposer le travail et de faire des développements ou des applications d'une façon industrielle. Donc ça, c'est quelque chose vraiment formidable. On voit beaucoup chez Huawei, mais aussi dans les autres entreprises. Troisième point qui est très fort, c'est il y a des entrepreneurs chinois, profondément, c'est des gens qui cherchent des réussites économiques. Donc, ils sont très persistants. Ils ont aussi un écosystème qui est quand même très, très développé, c'est-à-dire il y a des fonds d'investissement pour amener de 1 à 100. Et si on parle des points faibles, il y a bien sûr aussi plusieurs. Il y a souvent des critiques sur le système éducatif. Est-ce qu'on est trop conformatrice? Et puis, il y a aussi des problèmes dans la permission des débats, des idées, etc. Donc ça, c'est souvent, ça revient, c'est récurrent. Un point qui est assez fondamental, c'est qu'on s'assoit sur une économie dynamique. Mais une économie dynamique a aussi des faiblesses, c'est que les gens changent trop vite leurs idées, c'est-à-dire dans la recherche, souvent on voudrait des gens persistants et consistants. Et là, du coup, il y a aussi des problèmes, c'est-à-dire dans la recherche de base, dans des recherches, des projets de recherche à long terme profond, découvert des médecines, des médicaments, tout ça, il y a des longs chemins à faire dans la recherche physique, mais dans la recherche biochimique, c'est encore plus faible. Donc on voit plus les Chinois dans l'IT, dans les recherches appliquées. Donc on voit bien que le cycle de développement, quand le cycle de développement est long, les Chinois sont moins bons.
Le rêve chinois du numérique, c'est Shenzhen, qui est devenue la Silicon Valley du hardware, où on trouve toutes les pièces, tous les composants pour les ordinateurs. Mais la Silicon Valley originelle, américaine, Californie, reste le paradis du software, où sont inventés les logiciels, et reste aussi le territoire des géants de la nouvelle économie, des GAFA et des start-up, évalués à plus $1 milliard. Pour garder cette longueur d'avance, Donald Trump a déclenché une guerre technologique contre la Chine, qui pourrait durer longtemps, car le gouvernement chinois ne renoncera pas à son programme qui a pour ambition de faire de la Chine une puissance technologique et économique, et surtout la première puissance mondiale.
Chine, l'offensive high-tech, un reportage de Dominique André assisté de Shenyan Hu avec Annie Bro à la réalisation.
Grand reportage, Aurélie Kiefer.
L'invité de grand reportage est aujourd'hui Claude Meyer, professeur à Sciences Po, conseiller au Centre Asie de l'IFRI, spécialiste de la Chine. Avec vous, Claude Meyer, nous allons analyser les ambitions et les stratégies chinoises. Alors, il y a vraiment une action volontariste de l'État chinois avec ce plan Made in China 2025. De quelle façon est-ce qu'il a été mis en place ?
Alors, ça rentre évidemment dans le cadre des ambitions de la Chine, que je résumerai, ambition économique, bien sûr, ambition aussi géopolitique pour réorganiser, si j'ose dire, l'ordre mondial en sa faveur, et aussi, il ne faut pas l'oublier, essayer de développer son soft power. Notre sujet, c'est donc effectivement le plan économique à ce niveau-là. Premier point, effectivement, en termes de PIB, la Chine va devenir première puissance mondiale dans quelques années. Le deuxième, et c'est véritablement ce dont on parle ce soir, c'est la question de la technologie que la Chine considère comme quelque chose d'absolument crucial. Pourquoi crucial ? Pas simplement pour la rivalité avec d'autres puissances, États-Unis, Japon, mais aussi du point de vue domestique, dans la mesure où on a un ralentissement de la croissance chinoise et que l'apport de nouvelles croissances va venir des progrès technologiques et d'augmentation de la productivité. Donc on a effectivement le troisième volet étant, après la puissance technologique, la puissance financière. Mais ce n'est pas notre sujet ce soir. Donc voilà le cadre général dans lequel se situent ces offensives au niveau technologique de la part de la Chine. Alors quel est l'état des lieux, si je puis dire, quelle est la situation ? Parce que évidemment, on a des nouvelles extrêmement spectaculaires, mais il faut reprendre peut-être la comparaison au niveau mondial. On a effectivement une mise en œuvre de moyens financiers et humains tout à fait considérables, et les dépenses consacrées à la recherche et développement ont doublé depuis les 10 dernières années. Ça, c'est le premier point. Le second, c'est quand même, il faut avoir conscience que la Chine n'est pas forte dans tous les domaines et qu'au contraire, elle a des vulnérabilités majeures, étant entendu que à peu près 60 à 70% de son arsenal technique est actuellement d'origine étrangère, soit par achat de licence dans le passé, soit par transfert de technologie des entreprises étrangères en Chine.
Donc là, il y a vraiment cette idée de devenir indépendant.
Alors, Alors absolument, Xi Jinping l'a dit très clairement, il faut absolument, la Chine est lui-même est tout à fait consciente de ses vulnérabilités, dont on pourra dire un mot d'ailleurs sur Huawei, il s'agit de renverser ce ratio et de développer les technologies autochtones. Et là, on a la deuxième faiblesse quand même qu'il faut signaler de la recherche de la technologie chinoise, c'est jusqu'à présent un désintérêt pour la recherche fondamentale, ce qui peut quand même poser problème à l'avenir. Hein. On n'a pas le prix Nobel, enfin il y en a un en Chine.
Et effectivement, pour l'instant, la recherche fondamentale reste encore une des faiblesses, c'est ce qu'on entendait dans le reportage.
Absolument, absolument. Alors, face à cet état des lieux, si je puis dire, on a ces dernières années une accélération absolument spectaculaire de ce rattrapage nécessaire pour inverser le ratio de 70 à 30% de technologies étrangères, une accélération absolument spectaculaire dans
avec un plan très structuré.
Pardon ?
Avec un plan très structuré.
Alors, justement, donc parlons du plan Made in China, et les autres d'ailleurs, sont des plans relativement récents. Enfin, disons, il y a le plan quinquennal, et il y avait un plan déjà en 2005, un plan à 15 ans pour développer la science et la technologie, qui était ajusté tous les 5 ans. Mais là, on a des plans absolument spécifiques. En 2015, deux plans. Le premier, c'est le plan Internet Plus. Ça consiste à quoi ? Essentiellement à digitaliser les méthodes de fabrication, hein, utiliser l'électronique, pour arriver à ce qu'on appelle le smart manufacturing, c'est-à-dire la production intelligente. Ça, c'est le premier plan. Le deuxième, je dirais, qui est plus ample encore, c'est le Made in China 2025 que vous avez mentionné, où là, véritablement, la Chine veut développer un certain nombre de secteurs où elle souhaite prioritaire, où elle envisage tout à fait d'être dominant dans les 10-15 ans qui viennent et leader, je dirais, à l'horizon, effectivement, 2040-2050. Quel type de secteurs sont évidemment des secteurs de très haute technologie. Machines-outils à commande numérique, les robots, on en a parlé, l'aéronautique, les véhicules à énergie nouvelle, où la Chine a déjà une certaine avance, la biotechnologie, etc., etc.
Et alors, quand on écoute le reportage de Dominique André, on a l'impression que ça marche. Est-ce que c'est vrai pour tout ?
Alors, effectivement, il faudrait prendre chacun des sujets qui a été évoqué. Si on prend par exemple la question du drone, là, dont on a parlé, ça n'est pas quand même, au jour d'aujourd'hui, ça n'est pas une avance de la Chine particulière par rapport à ce qui peut se faire aux États-Unis. D'ailleurs, même Amazon prévoit, en revanche, compte tenu de... Parce que le deuxième plan, n'est-ce pas, c'est le développement, enfin le troisième, le développement volontariste de l'intelligence artificielle, avec des financements considérables dans les 5-10 prochaines années. Alors là, compte tenu de l'avance qu'a pris la Chine dans le big data, en particulier à travers sa population, ses 600 millions d'internautes, ses 200 millions de caméras installées, bientôt 600 millions, elle sera en mesure effectivement d'utiliser ces big data pour tout ce qui peut être développement et évidemment utiliser la 5G, ce qui nous amène évidemment à Huawei.
Qui est là dans une situation un peu délicate. Est-ce qu'il peut vraiment être menacé par ces mesures de rétorsion américaines ?
Alors, bon, cela, ça ne... je crois, alors justement, à travers Huawei, on peut constater ce que je disais précédemment sur les vulnérabilités et la dépendance technologique, en tout cas vis-à-vis du Japon. Qu'est-ce qu'a fait Trump le 15 mai 2019 ? Il a touché un double talon d'Achille, des deux côtés, si je puis dire. Il a privé les sociétés chinoises, et particulièrement Huawei, de ses clients, en interdisant la 5G, etc. aux États-Unis, mais surtout, plus difficile, de ses fournisseurs. De ses fournisseurs, que ce soit dans le hardware, c'est-à-dire les puces électroniques, etc., Qualcomm, société américaine, ou dans le domaine du software, c'est-à-dire le système Android, par exemple. Donc, il est probable que c'est un coup dur, effectivement, pour Huawei. Il est probable, à court terme, court, moyen terme, que la société elle-même va souffrir. Je pense que ses ventes vont fortement baisser en Europe et ailleurs. Donc, je pense que ça va avoir des effets au niveau de l'entreprise. Mais d'une certaine façon, je me demande, est-ce que ça ne va pas catalyser, parce que là, l'honneur d'une certaine façon nationale et l'honneur de Huawei est en jeu, ça ne va pas accélérer le développement par Huawei de son propre système d'exploitation qui est en couveuse, je puis dire, depuis quelque temps. Et là, peut-être à terme, coiffer au poteau d'autres systèmes, dont des systèmes américains.
Donc ça pourrait avoir l'effet inverse que les Américains cherchent à
absolument
faire.
Absolument. Donc ça, évidemment, c'est une stratégie de Trump à relativement court terme. Dans les démocraties, fatalement, il y a toujours les élections au bout. Donc il veut avoir des résultats sur le déficit commercial. Alors là, c'est la guerre commerciale, puisque en fait, entre les États-Unis et la Chine, il y a bien sûr les problèmes commerciaux et les problèmes de rivalité technologique. D'ailleurs, la rivalité technologique de la Chine n'est pas simplement avec les États-Unis, on n'a pas le temps d'en parler, mais aussi avec le Japon, qui est un acteur majeur. Je cite un chiffre, puisqu'on en a parlé dans le reportage. La Chine, effectivement, dépose, est le premier déposant de brevets, il a dépassé 1 million. Mais si on compare la part de brevets déposés à l'étranger, qui indique évidemment la qualité internationale de la recherche, est encore assez limitée. Et si on prend, par exemple, les brevets triadiques, qui sont les brevets déposés simultanément aux États-Unis, en Europe et au Japon, le Japon a une part de marché de 35% et la Chine simplement 4 à 5%. Donc ça confirme quand même le rattrapage nécessaire pour la Chine.
Donc, alors je vous passer une dépêche sur Huawei qui va donc repousser de 3 mois le lancement mondial de son smartphone doté d'un écran pliable. Donc on voit un revers temporaire, mais effectivement sur la durée, on verra ce que ça donne.
Alors là, je ne suis pas toujours de très près les technologies. Est-ce que c'était déjà... Il y a eu un smartphone à écran pliable, mais c'était Samsung, je pense. Et ça n'a pas donné des résultats probants. Autant que... Bon, je parle là sous réserve des spécialistes. Les développements technologiques vont être spectaculaires. Alors, il faut quand même dire que Trump a donné un moratoire. Donc la question pour ce qui est Huawei et compagnie va se reposer le 15 août, au bout de 3 mois. Est-ce que véritablement l'embargo sur les exportations américaines de technologie va se poursuivre?
Alors là, le reproche en fait que les Américains font aux Chinois, c'est de ne pas respecter les règles du commerce international. Ils sont accusés de pratiques déloyales.
Oui, ça, ils sont pas les seuls à le faire. Et donc, là, régulièrement, la Chambre de commerce européenne en Chine dénonce ça dans un grand rapport tout à fait documenté, etc. Si on résume, effectivement, sauf par les Chinois, je crois que c'est absolument pas contestable. Quelles sont ces pratiques déloyales? C'est une difficulté c'est le principe en économie du mercantilisme. Le Japon a développé ça dans le passé. C'est de protéger le marché intérieur et de favoriser les exportations. Donc on voit ça, et la Chine l'a pratiqué avec un grand, grand succès, c'est-à-dire blocage des produits étrangers ou des services d'ailleurs. Les marchés publics ne sont pas ouverts en Chine. Et exportation à tout va, basée, et là c'est là les reproches sont un peu plus techniques, du fait que quand même beaucoup sont le fait d'entreprises publiques qui, alors là c'est déloyal, qui reçoivent des subventions considérables, ce qui leur permet d'avoir des prix compétitifs.
Alors, à propos de ces subventions, parce que c'est quand même incroyable, tout l'argent qui est déversé, c'est un plan très ambitieux. Combien de temps est-ce que Pékin peut se permettre d'investir autant d'argent public?
Oui, alors là, il faut effectivement qu'on parle des aspects financiers de la Chine. En deux mots, la Chine est une puissance financière, je ne dirais pas de premier plan, elle l'est au niveau, je dirais, de ses capacités d'épargne, on pourra revenir sur le pourquoi, qui lui permettent d'être, par exemple, le premier créancier des États-Unis, étranger, de financer à tout va en Amérique latine, en Afrique, etc., tout ça on connaît. Ça c'est basé sur, effectivement, l'épargne chinoise qui est extrêmement abondante, et en revanche, la Chine n'est pas une puissance financière de premier plan au niveau de la sophistication, que ce soit européenne ou américaine. Alors, est-ce qu'elle a les moyens de... Alors, on parle beaucoup actuellement de l'endettement de la Chine. L'endettement concerne effectivement les entreprises privées. Ça a beaucoup augmenté depuis 2008. En revanche, l'État chinois est relativement peu endetté. C'est 40% du PIB, 80% si on ajoute les collectivités territoriales. Donc, il y a, me semble-t-il, des moyens financiers absolument considérables qui, effectivement, qui d'ailleurs, parenthèse, qui a favorisé le développement de Huawei. Huawei est une entreprise théoriquement privée, mais elle a bénéficié d'énormes financements qui lui a permis, effectivement, des investissements à moindre coût ailleurs. Donc, au niveau de la force de frappe...
Pas d'inquiétude pour la Chine.
Non, je crois que la force, il n'y a pas que ça. Il y a sa force de frappe financière et la qualité de ses ingénieurs qui arrivent effectivement en rang serré. Par rapport en Europe, par exemple, les filières scientifiques technologiques représentent à peu près 25%, je crois, à l'entrée de l'université. C'est 45% en Chine.
Il y a d'ailleurs eu un plan pour rappeler des talents des Chinois de l'étranger, les faire revenir au pays.
Exactement, donc il y a cela. Et puis il y a cette espèce peut-être de solidarité de la diaspora. Alors j'ai lu ce matin, ce qui nous donne une longue dépêche de Reuters, sur un aspect que je ne connaissais pas et qui est peu connu. Le nettoyage, si je puis dire, l'expulsion de sino-américains, de nationalité américaine, de grands instituts de recherche dans la mesure où Washington estime que ça devient dangereux parce que, bon, les instituts de recherche sur le cancer, etc., c'est de la recherche à la fois fondamentale, mais évidemment, les entreprises pharmaceutiques bénéficient de cette... Donc, on a un durcissement très fort du côté de Trump.
Avec une crainte de l'espionnage.
Alors, les craintes sont... la crainte de l'espionnage... Déjà, en 2012, le NSA avait mis ça sur le tapis, mais aussi cyberattaque. Et cyberattaque, là, ça devient, avec la 5G, quelque chose d'extrêmement dangereux. On a parlé, là, de Shenzhen, etc. Quand j'ai visité, j'y vais à peu près tous les ans, en décembre dernier, leur nouveau siège, qui est plus un campus américain qu'une université chinoise. Et on a un immense tableau clignotant de tous côtés, qui est la simulation de ce que va donner une ville intelligente, Smart City, avec l'utilisation de la 5G. Avec toutes les caméras qui sont installées. Alors ça, c'est aussi un autre aspect, les questions de caméras.
Alors oui, parce que
de reconnaissance faciale.
Voilà, parce qu'en Chine, on n'a quand même pas tout à fait la même conception de l'éthique et des droits individuels que nous. Et les technologies déployées ne respectent pas du tout la vie privée.
Tout à fait. Mais ça, dans plusieurs domaines, et je vais revenir à ce point précis, mais aussi, au passage, même en bioéthique, c'est-à-dire qu'il y a des clonages qui ont été effectués en Chine et qui ne seraient pas acceptés en Europe. Alors, effectivement, on a une mise en place progressive en Chine de ce qu'ils appellent le crédit social, c'est-à-dire un flicage, si je peux dire, des citoyens en fonction de leur bon ou mauvais comportement dans différentes situations, que ce soit sur un passage clouté, que ce soit dans des magasins, que ce soit ceci et cela, avec des sanctions qui peuvent être privées de billets de chemin de fer, etc., ou d'être récompensées de telle ou telle manière. Donc on a là, effectivement, à l'horizon, dans 2-3 ans, on va avoir 600 millions de caméras, avec des capacités de reconnaissance faciale absolument remarquables, qui effectivement, du point de vue de la sécurité, renforcent, parce que c'est facile de rattraper des malfaiteurs, mais d'un autre côté, qui pose des problèmes majeurs au niveau de la sécurité individuelle, des données et aussi des droits fondamentaux.
Et qui a l'air de commencer à faire débat en Chine, ce qui n'était pas le cas pendant longtemps.
Oui, enfin, je ne sais pas, moi je ne suis pas conscient, si vous voulez, de débats majeurs en Chine. Il y a des débats peut-être à Hong Kong et à l'étranger. Mais les interviews que j'ai pu voir de la population chinoise, ce n'est pas quelque chose qui les étonne tellement. le raisonnement étant, nous, on est bien, donc on n'a rien à cacher, et donc on sera récompensé, donc c'est très bien.
Et on profite de tous les atouts des nouvelles technologies. Mmh. Un mot de l'impact de cette guerre commerciale sur la Chine, est-ce que ça peut bloquer la croissance? Je voyais qu'au mois de mai, la croissance de la production industrielle a ralenti, que c'était le chiffre le plus faible depuis 2002. Est-ce que ça a un lien direct avec cette guerre commerciale?
Oui, ça a alors il faudrait voir d'une manière plus fine, secteur par secteur, mais évidemment, ça a une incidence. Mais les chiffres du premier trimestre ont été meilleurs qu'on anticipait précisément en raison de cette guerre commerciale. Donc, ça a des effets, mais peut-être moins négatifs qu'on ne le craignait.
Et pour l'instant, les négociations sont vraiment dans l'impasse.
Les négociations, alors il faudra voir le G20 à Osaka. Je ne sais pas ce qui se passe dans les coulisses entre Trump et il y a peut-être des émissaires des deux côtés. C'est curieux parce qu'on était arrivé presque à un accord et personne ne sait très bien pourquoi ça a capoté.
Mais là, donc pour l'instant...
Pour l'instant, non. Pour l'instant, on a donc, c'est quand même considérable, on a donc 250 millions d'exportations milliards d'exportations chinoises qui sont taxées à 25% en Chine. Et réciproquement, on a 110 milliards taxés, exportations américaines taxées en Chine. Et c'est évidemment extrêmement dommageable pour le consommateur et pour la croissance.
Et ça n'est peut-être pas fini. Merci beaucoup Claude Meyer. Chine, l'offensive high-tech. Le grand reportage de cette semaine était signé Dominique André, assisté de Shenyan Hu. Réalisation Annie Bro, avec Laurie Vachon à la technique. Vous pouvez réécouter et podcaster cette émission de la rédaction sur franceculture.fr.